Mesdames et messieurs, chers clientes et clients, je m'appelle Sandro Merino, je suis Chief Investment Officer à la Banque Claire. Merci Angelo de la gentille introduction. Je vous souhaite à tous la bienvenue, moi-ci, à cette conférence téléphonique. Et avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous préciser différentes choses. Les fichiers audio ainsi que la transcription de cette conférence téléphonique et de celles réalisées à l'avenir seront publiés sur le site internet de la Banque Claire, claire.ch, où vous trouverez par ailleurs des informations sur les possibilités dont vous disposez pour contacter vos conseillers et conseillères par téléphone, par email ou désormais aussi par vidéo. N'hésitez pas à en parler directement avec eux. Aujourd'hui, j'aimerais surtout parler de l'évolution des marchés financiers et des répercussions économiques de la pandémie, y compris sur les mandats de gestion de fortune et solutions de placement proposées par la Banque Claire. En effet, mon équipe et moi-même assumons la responsabilité des stratégies de placement élaborées dans ce cadre. Je tiens tout d'abord à préciser que nous aussi, gérants de la fortune de la Banque Claire, nous nous soucions avant tout de la santé de la population, exprimant toute notre compassion pour les victimes de cette pandémie qui continue de faire des ravages dans le monde entier. Depuis notre dernière conférence téléphonique le 28 mai, le nombre d'infections au coronavirus confirmées dans le monde est passé de 5,6 à plus de 9,1 millions. Le nombre de cas n'augmente toutefois plus de façon exponentielle, cette hausse constante étant surtout due à la situation aux États-Unis, au Brésil, en Russie et en Inde. Au Brésil notamment, la gestion très discutable de la crise par le président Bolsonaro a engendré une catastrophe à la fois sanitaire et humanitaire, ainsi qu'une instabilité politique dangereuse pour le pays. Les États-Unis demeurent l'épicentre de la pandémie. Le nombre de nouvelles infections enregistrées chaque jour continue de croître et avoisine actuellement les 30 000 par jour, soit autant que durant le premier pic enregistré fin avril. Les nombreux assouplissements mis en œuvre en Suisse et dans de nombreux autres pays européens depuis fin avril ne semble pour l'instant pas avoir significativement compromis la chute du nombre de cas de coronavirus. Le redémarrage de l'économie et la lutte contre les graves conséquences économiques des mesures de confinement constituent désormais les priorités absolues en Europe et en Asie. J'aimerais tout d'abord vous donner un bref aperçu de la situation actuelle de la pandémie sur les principales places économiques de la planète. Je commence avec la Chine et le reste de l'Asie. Tout d'abord, les pays asiatiques tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan parviennent toujours à empêcher une nouvelle hausse des cas d'infection, en d'autres termes une seconde vague, et ce, malgré un net assouplissement des mesures de quarantaine. Ces dernières semaines, certains États, en particulier la Chine, ont de nouveau recensé de nouveaux foyers d'infection, mais uniquement à l'échelle locale. Hormis en Inde, le nombre des cas en Asie reste donc globalement stable à un faible niveau. En Suisse, le nombre d'infections confirmées chaque jour depuis mi-mai reste souvent nettement en deçà de la barre de 50 cas. De même, on ne compte heureusement plus qu'une poignée de nouveaux cas d'hospitalisation et de décès liés au COVID-19 en Suisse. L'application SwissCovid, un outil numérique visant à favoriser la reconstitution des chaînes d'infection au coronavirus, a comme prévu été lancée dans le pays aujourd'hui. Elle est désormais gratuitement à la disposition de la population helvétique. En Europe, alors, les États voisins de la Suisse se trouvent dans une situation comparable. Dans de nombreux autres pays européens, la vague épidémique faiblit et la priorité est à présent au redémarrage de l'économie. Même si la Grande-Bretagne reste légèrement à la traîne, le nombre de nouveaux cas recensés chaque jour dans le pays n'est plus très loin de ceux de l'Allemagne et de l'Italie, qui sont aujourd'hui très faibles. D'importantes mesures d'assouplissement ont récemment été introduites outre-Manche, avec un peu de retard par rapport à l'Union européenne. Je passe maintenant aux États-Unis. La situation aux États-Unis reste bien plus tendue qu'en Asie et en Europe. Lorsque nous avons réalisé notre précédente conférence téléphonique fin mai, le pays recensait 1,7 million d'infections confirmées. On tablait alors sur quelques 2 millions de cas d'ici fin juin. Avec près de 2,4 millions aujourd'hui, la situation aux États-Unis est encore plus grave que prévu, ce qui montre que la propagation du virus s'est une nouvelle fois légèrement accélérée dans le pays. À ce jour, quelques 120 000 personnes y sont déjà décédées de suite du COVID-19, soit 20 000 de plus qu'il y a un mois. Ces chiffres sont malheureusement conformes aux estimations que nous avons formulées lors de notre dernière conférence téléphonique le 28 mai. On constate notamment une forte hausse du nombre de cas et de décès au Texas, en Floride, en Arizona et en Californie. Aujourd'hui, en Texas, on a décidé encore un nouveau lockdown. Comme on le craignait, il pourrait de nouveau croître de façon exponentielle. Si la tendance actuelle se confirme, le pays pourrait malheureusement enregistrer chaque mois quelques 20 000 morts supplémentaires en lien avec le virus. Il est probable que le nombre de décès se monte à plus de 200 000 d'ici l'automne. Les images du lancement de la campagne électorale de Donald Trump dans une salle peu remplie à Tulsa, Oklahoma, contrastent fortement avec celle de sa première campagne présidentielle. Le nombre de personnes ayant l'intention de voter pour Donald Trump en novembre a diminué ces dernières semaines, selon les pronostics pour les votations présidentielles. L'échéance approche et même si ces chiffres doivent être évalués avec beaucoup de recul, les temps sont durs à de nombreux égards pour le président américain. C'est donc au plus tard à l'automne, en se rendant aux urnes, que les citoyens américains donneront leur avis sur la gestion de la crise par l'administration Trump. Donc, je fais un résumé de la situation dans le monde. À l'échelle mondiale, la situation s'est nettement améliorée, d'abord en Asie, puis en Europe. On continue d'observer une normalisation de l'activité économique. Des obligations et plans de protection continuent toutefois de s'appliquer, ce qui engendre des coûts supplémentaires et des restrictions en matière de chiffre d'affaires dans de nombreuses branches. La situation aux États-Unis reste critique. Et une nouvelle hausse exponentielle du nombre d'infections pourrait donner lieu, dans certains États tout au moins, à des mesures de reconfinement. Voilà, je passe maintenant à la deuxième partie, aux répercussions sur l'économie. Le scénario optimiste d'une nette reprise de l'économie au second semestre s'est confirmé en juin. Après le fort recul enregistré en avril, on assiste manifestement à une reprise de la consommation privée. Les chiffres en provenance des États-Unis et de l'Europe font état d'une baisse de quelques 20% de la consommation privée en avril par rapport au mois de mars dans ces deux régions. Les chiffres les plus récents pour le mois de mai témoignent d'une forte reprise de la consommation privée aux États-Unis. Cette reprise pourrait être due notamment au paiement unique de 1 200 dollars alloué en avril à la quasi-totalité des citoyens adultes aux États-Unis. Mais les données provenant des différents pays de l'Union européenne devraient-elles aussi attester d'un retour partiel à la normale pour la consommation privée en Europe aussi? Étant donné que la consommation privée constitue de loin la plus grande part de la performance économique du côté des dépenses, le recul qui devrait être enregistré pour le produit national brut pendant le deuxième trimestre pourrait aussi s'avérer un peu plus modéré que ce que l'on craignait. Le célèbre indice de l'institut allemand IFO, publié hier pour le mois de juin, montre lui aussi une poursuite de la reprise de l'économie allemande en mai et en juin. D'après celui-ci, la baisse enregistrée entre janvier et avril a d'ores et déjà été compensée pour moitié. Cependant, il faudra probablement attendre deux bonnes années pour que l'Allemagne affiche la même performance économique qu'avant la crise. Et je pense que ces chiffres pour l'Allemagne sont, disons, assez significatifs pour ce qu'on peut s'attendre pour la Suisse entière. Cette amélioration des perspectives conjoncturelles est actuellement assombrie aux États-Unis par une reprise de la hausse du nombre de cas confirmés de coronavirus. Les détails du plan du sauvetage élaboré par l'Union européenne, qui porte sur un montant supérieur à 750 milliards d'euros, font encore l'objet de discussions. Ce plan, qui pourrait constituer un jalon historique pour l'Union européenne, n'a toutefois pas encore été adopté à l'unanimité par les 27 États membres. Voilà, maintenant je passe au marché des actions et aux devises. Le retour à la normale qui se manifeste peu à peu dans des indicateurs objectifs au sein de l'économie semble donc également soutenir les places boursières, surtout si la reprise économique se déroule avec moins d'anicroche et plus rapidement qu'attendu. L'embolie sur les marchés des actions de la planète s'est poursuivie en juin. À l'échelle mondiale, les principaux indices ont à ce jour gagné entre 2 et 4% en juin. Le SMI, l'indice suisse, a progressé de 2% environ. Avec une hausse de près de 5% en juin, l'indice technologique américain Nasdaq a une nouvelle fois le vent en poupe. Le SPI, l'indice plus complet des actions suisses, a gagné environ 20% depuis le 23 mars, jour où il a atteint son plus bas niveau de cette année. La technologie reste nettement surpondérée dans le cadre de notre stratégie de placement. À ce jour, l'indice suisse des actions a chuté de près de 5% depuis le début de l'année. Dans le même temps, le marché américain des actions a reculé de quelque 8%, celui de l'ensemble de l'Europe de 13%, et celui de la Chine a même gagné environ 1% depuis le début de l'année. La valeur du franc par rapport au dollar américain et à l'euro a par ailleurs peu évolué depuis fin mai. La perspective du plan de sauvetage de l'Union européenne a conduit à une appréciation de l'euro d'environ 2 centimes depuis mai, tandis que le dollar a diminué d'autant par rapport au franc. Les effets de change se sont donc plus ou moins compensés dans le cadre d'une stratégie de placement diversifiée. Voilà, je parle maintenant des conséquences sur nos stratégies de placement. L'amélioration observée sur les marchés mondiaux des actions en avril et en mai, et aussi en juin, et dans une moindre mesure en mai et en juin, je voulais dire, a également eu des répercussions positives sur nos stratégies de placement. Elles ont notamment profité de la hausse du cours des actions européennes en particulier. Les pertes enregistrées depuis le début de l'année se sont donc encore atténuées depuis notre dernière conférence téléphonique le 28 mai. Je vous donne les chiffres pour les performances des trois stratégies les plus diffusées, donc revenu, la stratégie équilibrée et la stratégie de croissance. Donc la stratégie revenu a depuis le début de l'année une perte de moins 1,4% en minus. La stratégie équilibrée perd 2%. Et la stratégie de croissance 3,4%. Donc on a eu une forte récupération des pertes relatives au niveau du 23 mars où on a vu les pertes les plus importantes. Voilà, les différences de rendement entre les stratégies de placement classiques et durable reste faible, très faible en fait, comme nous l'avions prévu. Donc c'est une bonne raison de choisir les stratégies durables. Pour obtenir des informations plus précises concernant votre dépôt personnel, n'hésitez donc pas à vous adresser à votre conseiller ou conseillère. Voilà, je passe aux conclusions déjà. Le scénario d'une amélioration de la conjoncture à compter du second semestre s'est donc clairement confirmé en juin. Malheureusement, on ne sait toujours pas dans quelle mesure la pandémie de coronavirus qui continue de sévir influera sur la reprise économique aux États-Unis. La croissance des dépenses de consommation pourrait indiquer que les citoyens américains occultent le risque de contracter le virus et continuent en grande partie de travailler comme si de rien n'était. C'est toutefois surprenant et il y a lieu de se demander si la reprise économique pourra réellement continuer de progresser indépendamment de la situation épidémiologique. En effet, on s'attend à ce que le pays enregistre encore pendant plusieurs mois quelques 20 000 décès mensuels liés au coronavirus. Nous continuons de nous montrer patients dans le cadre de notre stratégie de placement et confirmons notre légère sous-pondération des actions qui reste toutefois proche du seuil de pondération neutre. D'ici les élections américaines, les marchés des actions devraient encore se montrer assez volatiles. Nous pourrons peut-être appliquer ensuite avec davantage de conviction notre tactique de liquidité excédentaire dans le cadre des achats d'actions. Nos placements satellites, ce que nous appelons les méga-tendances, réalisés dans les domaines de la technologie, du secteur pharmaceutique, dans le cadre d'une évolution démographique, ces placements sont actuellement réjouissants. En début de l'année, nous ne pouvions évidemment pas prévoir que la pandémie de coronavirus toucherait moins fortement ces secteurs. Nous avions toutefois d'autres bonnes raisons de les pondérer un peu plus fortement dans le cadre de la constitution stratégique de notre portefeuille qu'ils ne le sont au sein des indices de référence. Nous continuons de suivre la situation de très près dans le cadre de nos activités de placement et sommes donc toujours susceptibles d'adapter notre stratégie de placement et notre tactique. Pour finir, je vous informe qu'une nouvelle et peut-être dernière conférence de ce genre se tiendra le jeudi 30 juillet. La série se poursuivra à une fréquence, disons, occasionnelle. On verra s'il y aura des situations qui nous donnent l'occasion de faire d'autres conférences, mais vous recevrez ultérieurement des informations à ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que mes explications vous auront été utiles.